On jase de sport. Mais surtout de la vie avec notre chum Pierre-Houd. Gravel dans le retour avec Denis, Véro, Audrey et Pierre-Houd.
Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Évidemment, on vous souhaite un bon début de week-end s'il y a quoi que ce soit. Sur les routes ou ailleurs, on se tient au courant, on se tient informé. 418-971-1021. On a tellement utilisé le téléphone dans les dernières semaines pour les billets de Papa Roach que je commençais à être confus. Ou c'est tout simplement la nervosité des prochaines minutes parce que je sais que c'est un habitué du vendredi, mais on parle pas seulement aujourd'hui à un collègue et à un ami et à une personne qu'on aime beaucoup. On parle aujourd'hui au lauréat de la plus haute distinction possible chez les communicateurs du sport de la part du temple de la renommée du hockey.
Tu sais qu'à cause de ça, tu dois le vouvoyer cet après-midi.
Oui, là, tu gardes un certain retenue.
Il y a un décorum.
Je parle au célèbre lauréat Pierre Houd, récipiendaire 2024 du prix Foster Hewitt Memorial. Pierre,
eh oui, félicitations. Allô, Véro et Audrey. Merci beaucoup.
Salut, good job.
Moi, j'avais préparé mes félicitations pour votre bulletin scolaire hier. Je pense que tu ne vas plus te réfugier à l'île d'Orléans hein, avant la publication.
C'est, c'est fini ces rituels-là. À cette heure, je fais le ménage chez nous puis j'essaye de prendre ça comme une journée normale.
Ah, tu vois comment tu vieillis. Tu deviens de plus en plus un père de famille, un homme de famille. Ça t'honore, ceci dit. Mais quoique je détestais pas ton rituel d'aller t'isoler quelque part.
Si un jour je retrouve le temps, je vais recommencer à le faire, c'est promis.
Et je suis surtout heureux de vous retrouver en vie ce matin, vous qui avez dû célébrer de belle et de digne façon votre beau bulletin scolaire d'hier.
La vérité, c'est qu'il y a juste Audrey qui a encore l'âge de sortir. Fait que elle venait dormir chez moi. J'ai attendu comme une maman inquiète qu'elle arrive à 2h30 du matin.
Toi, t'avais déjà quitté. Véro?
J'avais déjà quitté. Fait que ce matin, moi, j'étais fraîche comme une rose et c'est moi qui fournissais les Tylenol et les Advil à Audrey.
Faut dire, par exemple, que Véro est quand même une bonne fêtarde quand elle veut.
D'habitude, oui.
Je l'ai déjà entrevu. Je peux pas dire que je suis jamais...
Oh mon Dieu!
Je suis jamais allé jusqu'au bout de l'équation avec Véro.
Non, mais c'est vrai que, on est capable.
Ouais. Disons que le soir où moi je suis allé le plus loin à Québec, vous n'étiez pas là.
C'est vrai,
j'ai eu ma performance de karaoké.
Au Dauphin, on a eu des échos, mais malheureusement, on n'a jamais été témoin de ça.
C'était pas là, vous voyez. Alors, écoutez, je vous offre d'abord et avant tout mes sincères félicitations parce que vous travaillez avec les ingrédients, les seuls ingrédients dans lesquels je crois pour notre métier, c'est-à-dire le travail, la rigueur, le refus de la médiocrité, le désir de vaincre et la passion qui est l'ingrédient magique. Alors, vous avez tout ça. Et on ne peut pas ne pas avoir un certain retour sur ces ingrédients de la recette lorsqu'on les applique quotidiennement à son travail. Et je mettrai avec tout ça en toile de fond le respect pour ceux qui prennent le temps et l'honneur qu'on nous fait de nous consacrer quelques minutes ou quelques heures d'une journée. Alors, je vous félicite d'abord et avant tout. C'est vous qui méritez d'abord les félicitations. Et je suis, je vous le répète, extrêmement fier de participer à votre équipe et de participer à votre parcours. C'est pour moi un pur plaisir. Et je trouve que c'est un juste retour des choses parce que peu importe, Denis, à l'heure où va diffuser cette discussion d'aujourd'hui, parce que nous l'enregistrons autour de 12h10 et le communiqué du Temple de la Renommée vient juste de sortir, le hasard est magnifique. Le hasard fait que vous êtes la première entrevue, la première discussion publique que je peux partager sur ce grand honneur qu'on me fait.
Écoute, Pierre, quand on dit un grand honneur, t'es le quatrième francophone à recevoir cet honneur-là derrière Gilles Tremblay, Richard Carnot et René Lecavalier. Question bête, question peu originale, mais Pierre, comment tu te sens?
Ah, je me sens à court de mots. C'est, écoutez, la première chose, Denis, c'est que je le sais depuis le 14 mai. J'ai reçu l'appel du président de l'association
Cachottier.
Bien, j'étais vraiment, je me suis engagé vraiment à garder ça secret parce que le Temple de la Renommée, nous sommes invités au Temple de la Renommée et le Temple accepte la candidature de l'association des rédacteurs professionnels ou des journalistes de la presse écrite. Mm-hmm. Donc, dit en anglais, The Professional Writers Association. Je suis reçu avec Scott Burnside qui a un parcours extraordinaire. C'est très, très, très touchant d'être aux côtés de Scott, qui le mérite pleinement lui aussi. Et donc, Le temple accepte les recommandations et les candidatures des deux associations et on nous consacre une petite place à l'intérieur, physiquement à l'intérieur du Temple de la Renommée à Toronto, mais aussi dans leur démarche, bien que nous ne soyons plus officiellement membres du Temple de la Renommée, au même titre que les joueurs, les entraîneurs,
parce que ça a déjà été le cas, Pierre, hein? C'est quoi? On a changé ça?
Oui, on a changé ça parce que puis je ne peux pas être contre l'idée. Je ne peux pas être contre non plus ceux qui n'étaient pas de bonne humeur dans les plus vieux, dans les plus traditionnels. Je pense que ce qu'on veut reconnaître, c'est notre rapport à la cause du hockey. Mais notre rapport n'est pas directement lié au sport du hockey. Nous ne patinons pas comme les joueurs et les arbitres. Nous ne bâtissons pas comme les bâtisseurs, comme les propriétaires, comme ceux qui ont fait avancer la grande cause du hockey. Nous ne sommes pas non plus des anciens entraîneurs. Bref, je pense que la distinction, pour moi, elle est tout à fait acceptable. Mais le temple est extrêmement courtois envers nous. À défaut d'être à la grande cérémonie du lundi soir, nous avons un lunch très élaboré, pas dans le sens culinaire, là, mais je disais, très élaboré dans le sens de ceux
c'est
qui assistent.
C'est un 8 service.
je ne sais pas, Véro, mais écoute, je peux te dire que ce que je sais déjà, j'en sais peu, on nous remet notre veston officiel du Temple de la Renommée et on aura éventuellement une plaque là, qui sera gravée, qui sera en exposition au Temple. Alors, c'est... Et pour revenir à ta question d'origine, je suis assez reconnaissant à la vie de pouvoir dire que les trois qui sont là sont des amis et je ne colporte pas ça gratuitement, tu le sais, c'est pas ma nature. René a été mon gourou, mon mentor, il a été mon guide. Il est encore aujourd'hui celui qui a tout fait pour nous ouvrir les portes de notre profession en français en établissant des standards de qualité extrêmement hauts. Et j'ai eu le plaisir de travailler en compagnie de René dans les dernières années de sa carrière et j'en serai toujours reconnaissant à la vie. Il m'a donné avec beaucoup d'humilité, il était tellement humble, il m'a donné beaucoup de générosité, m'a pris un peu sous son aile dans mes premières diffusions olympiques dans les années 80, et j'en serai reconnaissant toute ma vie. Gilles, écoute, je ne calcule plus les soupers mémorables que nous avons partagés ensemble quand il était à l'analyse du hockey et dans les dernières années du hockey à la radio. On faisait tous les voyages ensemble. C'était un ami extraordinaire. Il en est encore un, même s'il n'est plus là. Et Richard, vous connaissez mon amitié profonde pour Richard Garneau aussi. Ouais. Donc, où je veux en venir, Denis, c'est que c'est doublement touchant pour moi de rejoindre ces monuments dans l'histoire de notre diffusion du hockey au Canada français, au Québec, parce que ça déborde sur les francophones hors Québec aussi, mais de rejoindre particulièrement ces trois-là, vraiment.
Pierre, écoute, je sais que tu n'es pas le genre à afficher toi-même tes statistiques, mais le communiqué du Temple de la Renommée nous montre des chiffres qui, me jettent par terre. Tu as présenté près de 3500 matchs, 12 finales de la Coupe Stanley, 13 Jeux olympiques, des centaines de courses de F1. As-tu une carte de hockey à quelque part où tu gardes les chiffres à jour ou quand tu vois ces chiffres-là, tu fais « Mon Dieu Seigneur, ça fait longtemps que je traîne ici, hein?
» Oui, bien, j'ai tout. Ben, remarque, je remercie parce que Marc, en travaillant secrètement dans les coulisses de RDS pour piloter ma candidature, est-ce que je vous l'avais dit, ça?
OK, non.
Bon, peut-être que je ne l'avais pas dit. Je l'ai su dès le premier jour. Marc a été le pilote de ma candidature, mais il y a eu de l'aide de la part du département de relations publiques à RDS, Patrick Tremblay, entre autres, de mes collègues, pour aller chercher ces chiffres-là. Puis moi, ça fait longtemps que j'ai reçu un coup de téléphone de Patrick qui me dit « Bien, Pierre, je prépare quelque chose pour tes 35 ans de hockey à RDS, pour tes 50 ans de carrière, parce que tout ça arrive aussi là, dans les prochains mois. » Puis je dis, voici, là, je calcule le nombre de matchs. Tu sais, je suis pas comme Paul. Paul tenait tout ça en note. Moi, j'ai fait une approx. Ben, je dis, regarde, l'approx très sérieuse que je fais, Patrick, D'après moi, c'est un beau chiffron, 35 ans, 3500 matchs. J'arrive à peu près à ça, sans trop me tromper. Et là, ben, ça s'est rendu dans le communiqué officiel de la Ligue. Écoute, oui, tout ça m'amène à beaucoup réfléchir sur ma vie, à regarder beaucoup plus dans le miroir présentement. J'aime ce que je vois dans le miroir, bien que je peux attribuer chacune des étapes importantes à des gens tout aussi importants qui ont été autour de moi, à chacune de ces étapes-là. Et je le dis vraiment pas pour bien paraître, j'ai passé l'âge. C'est vraiment ça qui me touche. Je regarde la composition du comité de sélection. Ce sont tous des légendes dans leur sphère ou dans leur marché de hockey. Ce sont tous aussi, et ça je suis fier de le dire, des amis professionnels. Envers qui j'ai une reconnaissance et surtout avec qui j'ai une amitié débordante. Ça ne m'étonne pas de Marc, qui est devenu un ami très proche. Ça ne m'étonne pas de ceux qui ont collaboré. Écoute, je crois comprendre que le Canadien de Montréal a endossé, via Jeff Molson et Chantal, la candidature.
Ah, bravo.
J'ai reçu l'appui aussi de Luc Tardif, qui est le président de la Fédération internationale du hockey sur glace, qui a remplacé le Suisse René Fassel. Écoute, tout ça est extrêmement touchant. Je répète, c'est difficile de trouver les mots parce qu'on n'est pas sûr de tout ce qu'on ressent à l'intérieur. Mais je répète, moi, devant ces hommages-là, je les accepte, mais je suis très mal à l'aise et ça nous rend encore plus humbles. Et non pas le contraire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Mais Pierre, je trouve que ça consacre quelque chose qui devrait être une évidence pour nous autres. Tu sais, il y a une génération d'amateurs de hockey, puis le hockey, c'est notre religion, c'est notre sport national, c'est important. Puis si tu me permets un très court éditorial, je pense que les gens qui font vivre le hockey sont des artisans. Je pense qu'ils font partie de la recette qui fait en sorte que le hockey est tellement important pour nous autres. C'était le cas avant qu'il y ait les images, puis que les descripteurs soient uniquement sur les ondes radiophoniques. Je pense que vous êtes un ingrédient essentiel à la façon de faire vivre le hockey. Si tu me demandes mon avis, qui n'est pas important, je sais que je ne suis pas un vénérable au sommet des médias, mais en tant que jeune de moins en moins jeune, moi, je pense que vous avez votre place entière amplement méritée au temple de la renommée du hockey avec les athlètes, avec les entraîneurs. Je referme cette parenthèse-là.
Pierre, merci. Oui. Merci, je l'apprécie beaucoup. Et je voulais simplement ajouter à ce que tu dis. Tu sais, quand on reçoit des critiques, puis moi, les critiques, quand elles sont justifiées et quand elles sont appuyables, je les accepte avec humilité. Et la critique qu'on nous fait souvent, ou qu'on nous a fait surtout dans le passé, mais encore parfois, c'est que vous débordez trop de la description du jeu, revenez à la description du jeu. Moi, je le prends comme un compliment, je le prends comme un gage d'avenir pour ma profession, parce que ça veut dire que le message, au fond, c'est « Hey, on a encore besoin que vous nous preniez par la main pour décrire le jeu sur la glace.
Ouais. »
Et c'est une critique que j'ai toujours acceptée. Elle a déjà été « débordante », entre guillemets, par certains chroniqueurs, mais je n'ai jamais fermé les yeux devant cette critique, parce que moi, je le vois comme en même temps, comme un témoignage de l'importance du travail qu'on fait.
Tu sais l'importance qu'a eu René Lecavalier sur les gens qui ont fait ce métier-là, qui aspiraient à faire ce métier-là, mais aussi sur tous les amateurs de hockey. Es-tu conscient que pour une génération d'amateurs de hockey, tu vas être l'équivalent de René Lecavalier, tu vas être le phare concernant ce qu'on va appeler la description du sport, toutes catégories confondues? Personnellement, je trouve que ce prix-là, ça confirme ce statut-là que tu as eu pour les gens de ma génération. Autant les communicateurs que les amateurs de sport, toutes catégories confondues, Pierre.
Écoute, c'est difficile pour moi de commenter ce que tu dis parce que quelque part, je dis souvent, c'est pas à moi ou c'est pas à personne dans le fond de se placer dans l'histoire. Ouais, je veux dire histoire.
C'est pour ça que je le fais à ta place.
Je sais, mais Denis, je sais que t'as toujours été un grand promoteur de la place que je devrais peut-être occuper, et je t'en remercie, Véro aussi, Audrey aussi. Vous avez toujours été, vous avez toujours mis ça de l'avant. Il y en a un à qui j'ai pensé beaucoup, c'est Paul. Parce que Paul, dans les dernières années de communication, était un grand promoteur de ce que je pouvais éventuellement mériter pour toutes ces années-là. D'ailleurs, je me demande si c'est pas lui qui m'envoie un petit cadeau. ça a été ma première...
réflexion.
Mon premier réflexe.
Ouais.
Et mais tu sais, Autre coïncidence, tu sais où j'étais hier soir? C'est pour ça que je ne pouvais pas aller à Québec avec vous autres. Mm. J'avais été invité à l'école Promédia.
Ah oui!
Que vous connaissez à Montréal, qui a été créée par Pierre Dufault et qui a été vraiment au cœur de plusieurs carrières, dont celle de Chantal Maccabée, tiens, pour ne nommer que celle-là. Et moi, j'ai été prof pendant des années. Et hier, on m'a invité à aller parler aux étudiants qui sont sur le point de terminer leur session. Et c'est drôle parce que je me prêtais à des entrevues qui sont enregistrées, puis après ça, elles sont évaluées par le professeur en place. Et c'est beaucoup ça. C'est beaucoup des jeunes là, dans la vingtaine qui avaient préparé avec soin leur petit carnet d'entrevue. Je le voyais dans leurs yeux, il y avait une forme d'éclat. Et tout ça est très, très, très... Et tout ça est très, très, très touchant. Alors, oui, je le sens. Puis oui, j'en suis de plus en plus sensibilisé par des gens. Et ça, c'est bien mieux qu'un trophée, c'est bien mieux qu'une place à un temple de la renommée, que dans un musée ou peu importe, de son vivant, de faire dire qu'on a fait la différence dans la vie de quelqu'un, peu importe comment, il n'y a pas le plus beau compliment que je puisse recevoir et j'en suis très, très reconnaissant à chaque fois qu'on me le transmet.
Évidemment, quand on reçoit un honneur comme celui-là, puis quand on regarde les noms à côté desquels tu vas maintenant faire partie de cette élite-là, ça fait revenir en arrière, c'est 35, c'est 40 ans, c'est plus que ça, c'est plusieurs décennies de métier. Dans ce métier-là que tu fais, qu'est-ce qui a changé pour le mieux? Puis de quoi es-tu peut-être le plus nostalgique de ce qu'on va appeler la vieille époque?
Ah ben moi, ce dont je vais être le plus nostalgique, je le suis déjà, mais ça va l'être encore plus, c'est qu'il y a de moins en moins d'humains dans notre quotidien, autour de mon quotidien. Et le hockey n'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que nous, le hockey, on a toujours eu une équipe plus petite en nombre que les grands réseaux américains ou les grands réseaux anglophones. Mais c'est correct, on a toujours aimé ça comme ça à RDS. Donc, je suis chanceux, j'ai encore mon petit cocon autour.
Le feeling de gang. Ouais.
Oui, je peux partager avec eux. Mais je te dirais, sur les plateaux, par exemple, ben, de plus en plus, les caméras robotisées font leur apparition. Toutes les possibilités qu'on a maintenant au niveau de l'audio, malheureusement, ça enlève des personnes. Les Jeux olympiques, c'est le plus bel exemple que je peux te donner. Moi, j'avais hâte aux Jeux. Pourquoi? Parce que c'est le retour au cégep, je te le disais comme ça. On met notre sac à dos, on prend l'autobus le matin, puis on s'en va à notre site de compétition. Mais le matin, très tôt, et puis quand on est dans notre famille olympique, on est en famille, on mange à une table commune, on mange avec CBC, puis on mange avec NBC, puis on mange avec nos collègues de la Suisse. Et puis après ça, c'est probablement ce dont je m'ennuie le plus et probablement dans les années qui s'en viennent. À l'inverse, je pense qu'il ne faut pas être trop nostalgique parce que moi, tu sais, je le suis facilement. Mais j'en parlais aux élèves hier. Ah, tu sais, c'est difficile maintenant. On ne sait plus à qui s'adresser. On ne peut plus avoir notre démo, on ne sait pas à qui le donner. Moi, j'ai dit, mais écoutez, voyez la chose à l'envers. Moi, je n'avais pas de Twitter dans le temps. Je n'avais pas de TikTok. J'avais pas de Facebook. J'avais pas les autres médias sociaux. C'était pas universel pour rejoindre des gens sur une liste de lecture et ainsi de suite. Vous avez maintenant cette possibilité-là de montrer qui vous êtes et de montrer que vous avez et la forme et le fond pour être une personne importante sur le plan public. Et je donnais l'exemple de ma propre fille. Michel, c'est un très bon exemple. Oui. Michel n'est pas issu de l'école Promédia, elle est issue de la faculté de médecine. Mais elle a utilisé parfaitement ces nouvelles plateformes pour montrer sa valeur. Pas juste pour se faire dire qu'elle est bonne, parce qu'elle l'est, mais surtout parce que c'est une passion pour elle, puis elle a envie d'être un médecin en santé publique avec ces moyens-là qui n'existent pas, Denis, qui n'existaient pas quand moi j'étais dans le cœur des choses. Alors, je pense qu'il faut faire le virage. L'accès à l'information est tellement facile maintenant qu'on a encore moins de raisons de se tromper puis d'être médiocre puis de se laisser aller. On a toutes les raisons au monde de dire avec précision, de savoir de quoi on parle, mais en même temps, je pense qu'il faut accepter qu'il y aura ne pourra peut-être plus vivre cette grande collégialité des grands événements comme moi je l'ai vécu dans le passé.
Pierre, tu as fait référence au veston du Temple de la renommée du hockey. Dis-moi qui est bleu poudre comme les vieux vestons qu'il y avait à TV dans le temps de la soirée du hockey. Rassure-moi.
Ben, c'est pas un veston de Hockey Night in Canada ou de la soirée. C'est un veston du Temple. Et puis, pour avoir vu Serge Savard le porter dans certains événements auxquels je participais, il est très sobre, il est très discret, il est noir avec les cuissons du Temple qui est bleu et rouge surtout. Alors, disons, puis c'est pas vert non plus comme le tournoi des maîtres. Ouais. Alors, je vais accepter avec plaisir celui qu'on va m'offrir parce que j'ai l'impression que ça doit être un moment très fort de la cérémonie. Enfin, tous les moments seront forts. J'essaie de voir là, qui peut être à Toronto le 11 novembre. Mais ce sera certainement rempli d'émotions. Et ça, la remise du veston en sera certainement très, très importante.
Et ce veston-là, un coup qu'on l'a... quelqu'un gagne une bague de la Coupe Stanley, il va la porter, puis... Mais ce veston-là, le traînes-tu dans un souper de couple?
Non, je pense pas, non. C'est pas tout à fait mon genre.
Ça va rester dans le garde-robe, tu vas le suspendre dans le salon, on fait quoi avec ça?
Regarde, monsieur collecteur, toi-même, monsieur collectionneur, de chandail, ça, tu dois être le premier à me donner des conseils. Écoute, comment je devrais le conserver.
Ma blonde te dirait, tu mets ça dans un cadre.
Est-ce que je dois le saumurer? Est-ce que je dois mettre du sel dessus? Est-ce que je dois le congeler? Enfin, je ne sais pas, mais non, je le porterai uniquement quand la circonstance s'y prêtera. Pour le reste, ce sera une belle pièce que je sais que j'aurai. Mais que je n'ai aucunement l'intention d'exposer à outrance. Fiez-vous sur moi.
Hey, bravo, Pierre. C'est amplement mérité. Puis on est vraiment content d'avoir à ce sujet-là la première conversation. Je sais que tu es très en demande aujourd'hui.
J'espère que vous n'entendez pas tous les ding-ding pendant que je parle. C'est hallucinant.
Enfin, on voit l'écran de dialogue s'éteindre, s'allumer. Fait que j'imagine qu'à chaque fois que ça arrive, c'est quelqu'un qui veut te parler. C'est ça, hein?
Écoute, ça vient de partout. Puis écoute, ce qui est touchant, c'est que ça vient aussi beaucoup de mes collègues anglophones. Et je répète, je ne fais jamais de politique dans aucune plateforme média, mais ce qui me touche beaucoup, c'est que des anglophones disent nous, on fait l'effort d'écouter en français parce qu'on aime ça. D'autres de mes collègues disent on n'a pas besoin de comprendre ta langue pour comprendre là où tu en es. C'est vraiment bouleversant tout ça aujourd'hui, vraiment.
Tu viens d'ouvrir l'aspect de la langue. Permets-moi encore de te pitcher des fleurs. Je sais que tu es mal à l'aise avec ça, mais c'est pas grave. Je te garoche des fleurs pareil. Quand on est jeune, il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse nécessairement à apprendre la langue française. Il y en a qui ont la lecture facile, il y en a qui ont cette passion-là, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde, particulièrement chez les garçons. Les garçons, souvent, ce qui va nous inciter à lire, c'est des biographies d'athlètes qu'on aime. Je regarde mes gars dévorer des livres qui ont été faits sur Carey Price, sur Cole Caulfield, sur Sidney Crosby. Et le fait que, dans la langue française, je pense que c'est René Lacavalier qui a placé les standards, mais après ça, des gars comme toi ont décidé de se tenir à ce standard-là. La qualité de la langue française, il y a beaucoup de jeunes garçons au Québec qui l'apprennent grâce à toi, grâce à René Lacavalier avant, en écoutant du sport. Ils s'en rendent pas compte, Pierre. Ils ramassent du vocabulaire. Ils ramassent des expressions. Puis après ça, ça paraît dans leurs textes, ça paraît dans leurs exposés oraux. Au niveau du français puis de l'apprentissage du français, vous avez un impact. Je ne sais pas si tu en es conscient, mais moi, je suis convaincu, pour l'avoir vécu quand j'étais jeune puis pour le voir dans mon salon présentement pendant la saison de hockey, vous êtes des professeurs de français puis la matière rentre plus facilement que dans un cours de français.
Bien, on m'en a parlé souvent. Il y a beaucoup de profs qui m'ont dit qu'ils utilisent certains extraits du hockey pour... évidemment, j'aime pas parler des petites filles, des petits garçons, là, mais peut-être que, je sais pas, j'ai pas les chiffres et les statistiques. Peut-être que c'est une façon plus facile de rejoindre les garçons que les filles. Ceci dit, c'est incroyable comment les filles embarquent dans le hockey, dans le sport. Puis regarde comment il y en a de plus en plus. Et bravo à la télévision et à la radio. Mais en même temps, que tu ressortes René Lacavalier, pour ça, c'est très important. Mais René était pas seul. Si tu remontes au Richard, au Raymond Lebrun, Lionel Duval, oui. Jean-Maurice Bailly, Pierre Dufault, Jean Pagé, tout cela était de la vague un peu plus vieille, mais tu peux rajouter les plus jeunes d'après, les Serge Arsenault, les Claude Canville, les Winston McQuaid, et j'espère que j'en oublie pas, mais ils ont tous été, pour moi, des références. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient des références? C'était pas uniquement sur la forme de la langue française, mais c'était que ils étaient capables de s'intéresser à tout et de parler de tout. On peut pas être bon dans tout, mais on peut avoir le goût et on peut travailler en fonction de pouvoir parler d'autres choses. Et au-delà de la description de l'événement, ce qui me fascinait chez ces références-là, c'est qu'ils étaient capables d'insérer des éléments de culture, des éléments d'histoire, des éléments de géographie, des éléments de société, des éléments de politique. Et ça, pour moi, c'était des références absolues. Et écoute, si je suis capable de passer le flambeau, tant mieux, c'est ce que je voudrais le plus au monde. Mais en même temps, je suis très, très fier d'être bilingue. J'essaie d'être trilingue, là, j'accélère mon cours d'italien. Mais je regarde Michel, je regarde de plus en plus de jeunes qui parlent 3-4 langues. Et je pense que c'est ça l'avenir. Mais d'abord et avant tout, j'ai grandi au Québec. J'ai grandi dans ce petit coin de l'Amérique du Nord qui... Comme dans Astérix, cherche encore et toujours à protéger qui nous sommes. Je pense que qui nous sommes, ça vient de la langue. Et souvent, j'ai dit, puis si mes collègues, dont certains étaient du comité d'intronisation, s'ils étaient avec nous, ils diraient que c'est vrai ce que je veux dire. Je leur ai souvent dit, vous ne savez pas le privilège que j'ai par rapport à vous. Parce que, un, la langue française nous permet tellement de façons de dire la même chose, mais de différentes façons. Alors que la langue anglaise, plus pragmatique, plus terre-à-terre, va probablement souvent mener vers les mêmes expressions. Puis là, je les faisais éclater de rire en disant, en plus, je peux vous envoyer promener dans ma langue et dans votre langue, ce que vous ne pouvez pas faire avec. Et là, c'était toujours l'éclat de rire. Alors, merci du compliment. Beaucoup de nouveaux arrivants m'ont souvent dit aussi, en fait, des nouveaux arrivants qui sont établis depuis plusieurs années, plusieurs m'ont dit, on cherchait quelque chose... pour s'accrocher, on cherchait à s'accrocher à quelque chose pour s'intégrer à la société québécoise, pas juste dans la langue techniquement, mais dans toute la culture du Québec.
Ben oui.
Et tellement de gens m'ont dit que ça a été le hockey. Mm. Mon instructeur de vol, Ferdinand Pollack, qui est un Français qui est retourné en Europe, mais qui a vécu au Québec pendant 10-12 ans, il est arrivé ici, un fanatique du Paris Saint-Germain, évidemment, un vrai bleu des bleus de bleu. Et puis, il est arrivé ici, et là, il a compris ce que c'était le hockey du Canadien au Québec. Il est devenu un fan fini. Alors, on m'a dit aussi que, parfois, on pouvait servir à ça. Alors, tant mieux, écoute, tant mieux. C'est un petit apport à la société, mais si on y contribue, ben, ça me touche vraiment qu'on me le redise.
Pierre, la prochaine fois qu'on va avoir une conversation ensemble, on sera vraisemblablement rendu à la finale de la Coupe Stanley. Parti comme c'est là, ça va être qui, les deux équipes, d'après toi?
Je pense que le grand coup a été frappé par les Panthers hier. Mmh. Je pense que les Rangers... Ben, j'aimerais ça que ça aille en 10 matchs, Véro. Mais honnêtement, je pense que les Rangers commencent à être fatigués. Il y a des joueurs qui sont de plus en plus invisibles, ça m'inquiète. Zibanejad, Adam Fox, même Panarin. Je dis invisibles, c'est pas qu'ils sont invisibles au sens pur du terme, mais ils sont invisibles peut-être dans les situations clés, déterminantes. Shesterkin essaie de tenir ça à bout de bras, mais l'autre côté, je pense qu'il y a plus d'énergie, plus de ressources. Bobrovsky est aussi bon, sinon meilleur. Alors, je pense qu'hier, ça a été un très, très dur coup porté par les Panthers. Puis j'avais tendance à penser la même chose, Denis, par rapport aux Stars, mais la victoire des Oilers, comme on l'a vu il y a 48 heures, m'a vraiment sidéré. Hey, tu perds 2-0, je pensais que c'était terminé.
Ben oui.
Bang, 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 et dans le temps de le dire, c'est 4-2. Exact, c'est 4-2 dans le temps de le dire. Alors, écoute, je vais te dire que j'espère que les Oilers vont passer. J'y crois maintenant beaucoup plus depuis le match numéro 4.
Oui.
Parce que on est dû pour un Connor McDavid en finale de la Coupe Stanley. Malgré les défaillances qu'il peut y avoir à certains niveaux, dont devant le filet, on verra bien si jamais les Oilers passent et les Panthers passent. On verra bien si les Oilers peuvent venir à bout des Panthers en 7 matchs. Mais pour le bien du hockey et de la finale de la Coupe Stanley, J'aimerais bien que les Oilers puissent passer. J'y crois maintenant de plus en plus.
C'est vrai que ces grands joueurs de hockey-là doivent avoir leur rendez-vous souvent au pluriel avec la finale et pourquoi pas les célébrations de la Coupe Stanley. On pense à Sidney Crosby, Alexander Ovechkin, c'est arrivé sur le tard, Mario Lemieux, Wayne Gretzky, et ainsi de suite. Si Connor McDavid se ramasse en finale de la Coupe Stanley et réussit à soulever une Coupe Stanley canadienne pour la première fois depuis 1993. Même les partisans des Flames, même les partisans des Canucks, même eux autres, même les partisans du Canadien, je pense que d'un océan à l'autre, ça va célébrer solide.
Avec raison. Puis moi, je vais t'ajouter une dimension très importante pour toute cette génération de joueurs. C'est une génération de joueurs qui n'a pas connu l'euphorie des Jeux olympiques. Puis un des grands drames des Connor McDavid de ce monde, c'était « Allons-nous vivre ça un jour? » Dieu merci que Gary Bettman et les propriétaires ont enfin ouvert leur esprit à partir de 2026. Mais tu t'imagines, écoute celle-là, tu as la perspective pour Connor McDavid de gagner la Coupe Stanley, de faire partie d'équipe Canada dans le tournoi des quatre nations en février prochain, puis après ça, de porter les couleurs du Canada aux Jeux olympiques en Italie en 2026. Écoute, je ne peux pas parler pour lui, mais ce genre de surdoué-là carbure beaucoup à ces moments que l'histoire te donne. Et je pense qu'on va commencer à mettre les pièces ensemble, bout à bout. Alors, pour un McDavid, ça pourrait être le premier d'une trilogie absolument fantastique quand tu y penses, là, vu de cet angle. Alors, espérons-le. Écoutez, mais encore là, j'ai pas de parti pris. Je trouve qu'on a quatre formations parfaitement méritoires. On a du bon hockey. Puis, je suis content que ça se soit calmé un peu, là, les folies à outrance qu'on risquait d'avoir en début de série, surtout Floride Rangers. Mm-hmm. Ça s'est maintenant estompé. Puis là, je pense qu'on a on a du très, très bon hockey, de très belles séries. Puis en terminant, ben écoute, Denis, moi, en plus, je tombe dans ma semaine euphorique. On bascule dans la semaine du Grand Prix. Donc, vendredi prochain, je vais trouver un petit trou entre deux séances parler en direct.
Parce que c'est ça que je voulais te dire. Là, je sais que tu es chez toi présentement. Il fait beau à Québec. J'espère qu'il fait beau à Montréal. Je ne sais pas si les fenêtres sont ouvertes, mais ça commence à sentir le F1 dans ton bout un peu.
Ah oui, mais je suis allé au centre-ville hier. Malheureusement, la ville est un peu éventrée. Là. La rue Sainte-Catherine est lamentable.
Encore, ah oui.
C'est vraiment triste parce que la visite s'en vient. Là. Mm. Mais bon, ceci dit, dans l'air à Montréal, malgré tout ça, il y avait tellement de gens sur les trottoirs sur Sainte-Catherine hier. Ça sentait bon. Ça sentait la ville, ça sentait la cigarette, ça sentait la terrasse, ça sentait les fenêtres ouvertes. Ça sentait tout ça.
L'été.
Et ça sentait l'été. Puis moi particulièrement, ça ravive tous mes sens F1. Alors, une belle grande semaine qui s'en vient. Là. Espérons que la météo est très belle pour les premiers jours. Espérons que ça va durer pour vendredi, samedi, dimanche prochain.
Pierre, c'est toujours un plaisir de te parler encore une fois. Félicitations pour ton prix récipiendaire 2024 du prix Foster Hewitt Memorial, le jacket du Temple de la Renommée qui te sera remis au mois de novembre. Puis si jamais tu trouves le temps de deux séances la semaine prochaine, on va te jaser avec beaucoup de plaisir, comme à l'habitude.
C'est fait, j'en prends l'engagement. Peut-être une dernière petite note à vos auditeurs qui êtes plus de la région de Québec et en dehors de Montréal. Si vous venez à Montréal en fin de semaine, allez voir sur les différents sites. Tenez compte du Tour de Lille. Le Tour de Lille de nuit, vendredi soir et dans la nuit de vendredi à samedi. Et le Grand Tour de Lille dimanche, il y a plusieurs intersections qui sont fermées. Je pense qu'on a bien fait ça. Il n'y a pas vraiment d'embêtement pour les grands axes. Cela dit, faites bien attention. Prenez quelques minutes pour ne pas être enclavé éventuellement, parce que vous pouvez l'être physiquement enclavé si vous tombez entre une ouverture et une fermeture de rue. Alors, petit conseil comme ça en passant.
Merci de nous rappeler que la radio est d'abord et avant tout un service public.
voilà pourquoi on aime la radio.
Hey, merci Pierre, à la prochaine.
Et encore félicitations à toute votre équipe.
Merci beaucoup, puis les félicitations te sont rendues au centuple, cher ami, notre ami Pierre Houde, qui devient le quatrième francophone à recevoir ce prix-là, qui est décerné par le Temple de la renommée du hockey. C'est quand même exceptionnel. Puis tu sais, on le sait, là, je veux dire, depuis le temps qu'il fait ça, depuis le temps qu'il fait partie de nos vies,
il fait
partie des grands, tu sais, comme les René Le Cavalier de ce monde. Je pense que le timing est idéal. Bravo à la gang de RDS et à son chum Marc Denis d'avoir comploté un peu dans son dos pour avoir réussi à monter cette nomination-là. C'est tout à l'honneur du Canadien de Montréal de l'avoir appuyé aussi. Puis on est honorés, nous, dans notre petit coin de Québec, d'avoir eu la première entrevue avec Pierre-Aude de suite au communiqué. Je pense qu'il vient de se remplir peut-être un après-midi, peut-être même une fin de semaine. C'est Gravel dans le retour à Boulevard 102.1. On s'arrête, on vient.
Gravel dans le retour. Gravel!
L'été vous attend chez Sport Expert jusqu'à